Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français, qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. Et voilà, c'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés, il faut bien le préciser. Alors si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis la France, vous composez le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77. Et si vous souhaitez nous écouter depuis les États-Unis, eh bien, il vous faudra composer le 1 712 432 9978. Alors, aujourd'hui, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, ce sera l'heure de passer à table, si je puis dire, avec Top Cuisine. Et pour finir, un temps de réflexion avec le pasteur Daniel Monachini pour l'émission Œil pour œil. Tout de suite, pour commencer, sentez-vous bien. Docteur Jean Lindsay, bienvenue.
Bonjour Oscar.
Merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour notre chronique Sentez-vous bien. Vous êtes médecin, bien évidemment, et vous nous accompagnez régulièrement autour de sujets liés à la santé. Aujourd'hui, vous revenez sur la question de la pollution, docteur Jean Lindsay. Évidemment, on en parle souvent, on sait que c'est nocif, mais c'est bien de le dire, de le redire, de le rappeler.
Oui, absolument. Nous allons aborder deux grands domaines. Premièrement, la pollution volontaire. Oui. Et deuxièmement, la pollution involontaire.
Involontaire, de quoi s'agit-il exactement?
Alors, les grands dauphins de la Manche nous aident à y voir plus clair, parce que le groupe d'études des cétacés du Cotentin a prélevé entre 2010 et 2012 des échantillons de peau et de lard sur 87 grands dauphins de la Manche. Et puis ils se sont aperçus que les grands dauphins étaient très pollués. Ils ont beaucoup de PCB, polychlorobiphényle. Ils ont beaucoup de pesticides organochlorés, ils ont des retardateurs de flamme grommés, les PBDE, ils ont des dioxines, et ils ont beaucoup de mercure. Le mercure qui vient essentiellement du fait qu'on a brûlé du charbon, qui se retrouve dans l'atmosphère, qui tombe dans l'eau, et qui se retrouve au fond des espaces aquatiques, et qui pollue tous les animaux et les végétaux que les poissons vont manger, puis après ça se concentre dans les animaux, et comme les dauphins sont au bout de la chaîne, ils en ont plein.
Et ce sont des rejets industriels, principalement?
Oui. Et puis de nos modes de vie, quoi. Les pesticides, c'est l'agriculture intensive.
Ça finit par se retrouver à la mer.
Le dauphin est un bon marqueur, parce que lui, il a beau ne pas manger des nourritures agro-industrielles, il se retrouve quand même pollué. Donc si vous imaginez, nous, avec la nourriture agro-industrielle, à quoi on doit ressembler, quoi. Et tout ça contribue beaucoup à l'explosion des diabètes, de l'obésité, des troubles du comportement, des cancers.
Ça pourrait expliquer les 6 dixièmes
au moins une bonne partie
qui restent de cancer.
Sans doute, une bonne partie, oui, c'est ça. Mmh. Voilà. Donc là, on a un marqueur, si vous voulez. Le grand dauphin nous aide à voir que, effectivement, notre environnement est... Si même le grand dauphin de la Manche est très pollué, vous imaginez...
C'est pas de sa volonté, en tout cas.
Ah lui, non. Vous voyez, il fait pas ses courses au supermarché. Mmh. Et pourtant, il est très pollué. Donc, si même le grand dauphin est très pollué, qu'en sera-t-il des humains, quoi? Et alors, une grande nouvelle aussi, c'est que la pollution atmosphérique, les particules fines s'infiltrent dans le cerveau.
Oui, parce qu'il y a aussi la pollution atmosphérique.
Ah oui, on rajoute une... Oui.
Pollution de l'eau, pollution de l'air.
Ça se cumule. Alors, le vivant est résistant, quand même. Mais enfin, il n'en peut plus, là. Il est un petit peu débordé.
Il est temps que ça diminue, que ça s'arrête.
Donc, les particules fines, qui viennent essentiellement des pots d'échappement des voitures et des camions, on s'est aperçu qu'elles rentraient dans le cerveau. On le savait déjà depuis un moment, mais là, il y a une étude qui vient bien le confirmer. On retrouve dans le cerveau une magnétite spéciale dont la forme et la taille ne peut venir que des pots d'échappement et qui est souvent associée du reste à du platine. Platine qu'on trouve dans les catalyseurs des pots d'échappement. Donc on retrouve tout ça dans le cerveau et ça rentre probablement par le nerf olfactif. C'est peut-être ce qui explique que dans les Alzheimer, l'article dit, un des premiers signes de l'Alzheimer, c'est le fait que les gens ne sentent plus les odeurs. Dans l'Alzheimer, on a une atteinte particulière de l'hippocampe. Or, l'hippocampe se trouve directement branché sur le nerf olfactif. Et donc, les particules, les nanoparticules qui arrivent par le nerf olfactif vont directement à l'hippocampe. Et c'est justement cette zone qui est malade en cas d'Alzheimer. Et on retrouve du reste dans les plaques amyloïdes, les plaques qui témoignent de l'Alzheimer, on retrouve des quantités de magnétite de ce marqueur de la pollution atmosphérique. On en retrouve beaucoup dans les plaques amyloïdes.
Voilà. On connaît aujourd'hui d'ailleurs une explosion de la maladie d'Alzheimer dans notre société.
Oui, mais alors la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment l'épidémie...
La courbe s'inverse.
Commence à se tasser. Voilà.
D'accord.
Peut-être est-ce le fruit des efforts qui sont quand même engagés, parce que même s'il reste encore bien à faire, beaucoup de choses à faire, il faut voir que ça fait quand même 20-30 ans que des efforts sont engagés et de façon substantielle dans nos sociétés et que ça va aller en s'améliorant. On pense que le parc automobile devrait en une dizaine d'années se dépolluer considérablement sous l'arrivée massive des voitures électriques et des hybrides, des voitures hybrides hein, qui les hybrides roulent à l'électrique en ville si vous voulez et puis ne tournent en moteur thermique que sur les routes. Donc ça va dépolluer quand même considérablement nos atmosphères. Une voiture électrique, ça consomme 1 litre au 100. Pourquoi? Bah parce qu'une voiture thermique, comme le nom l'indique, ça fait d'abord essentiellement de la chaleur.
De la chaleur.
Sur 1 litre d'essence que vous brûlez dans une voiture, il y a les 3 quarts qui terminent en chaleur dans l'atmosphère. Et vous n'avez qu'un quart qui est transformé en énergie mécanique qui va faire avancer le véhicule. Parce qu'avec l'électrique, vous avez presque tout qui est transformé en énergie mécanique. Et en plus, gros avantage de l'électrique, ça récupère l'énergie. C'est-à-dire que c'est le même moteur qui, quand vous levez le pied, va se transformer en générateur qui va remplir la batterie. Et ça, jusqu'à maintenant, les voitures à essence, elles sont incapables, quand vous levez le pied, de refabriquer de l'essence qui va rentrer dans le réservoir. D'où l'intérêt énorme des électriques qui font que vous avez un effondrement de la pollution atmosphérique. On va, dans les années qui viennent, dépolluer considérablement dans tous les sens du terme. Et en plus, la voiture électrique, c'est un petit avantage. Comme elle récupère l'énergie au freinage, elle use beaucoup moins les plaquettes. Or, les plaquettes sont une grosse source de production de particules aussi. Donc là, vous freinez beaucoup moins, vous n'usez plus les plaquettes, vous faites moins de particules, même au freinage. Donc, on a là une solution à nos problèmes. On a déjà du mieux et on devrait aller vers beaucoup de mieux.
Bon, c'est bien de finir sur une note positive, docteur Jean Lindsay.
Absolument.
Merci beaucoup. On se retrouvera bientôt pour une prochaine chronique de Sentez-vous bien. À bientôt.
Au revoir, Oscar.
Au revoir.
The Voice of Hope.
Here is Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale avventista.
La voce della speranza.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Sentez-vous bien que vous retrouverez dès la semaine prochaine à la même heure et sur cette même antenne. Si vous souhaitez avoir une grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités ou nous envoyer un petit message, eh bien c'est très simple, il vous suffit de nous adresser un mail à france@awr.org. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre rendez-vous Top Cuisine et nous terminerons juste après avec le pasteur Daniel Monachini qui nous proposera l'émission Œil pour œil.
Corinne Valls, merci de nous rejoindre au micro de Top Cuisine. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la cuisine saine, végétarienne, bio. Vous avez la grande gentillesse de venir régulièrement nous prodiguer vos conseils et aussi de nous proposer vos recettes à ce micro. Et aujourd'hui, vous allez plus particulièrement nous parler du repas du soir.
Oui, bonjour. Alors le repas du soir, c'est souvent le repas qui est pris à la maison, en famille. Alors on a tendance à le faire abondant. Parce qu'à l'extérieur, on néglige parfois le repas, on mange sur le pouce. Mais cependant, il n'est pas très conseillé de manger trop lourd le soir et tard. Voilà pourquoi je vais vous parler d'un repas léger le soir.
C'est vraiment important, cette histoire de repas du soir, Corinne ?
C'est important dans la mesure où, quand on mange plus léger le soir, la digestion est meilleure. On digère bien mieux. On stocke beaucoup moins de graisse, hein, le soir, parce qu'on ne peut pas éliminer ce que l'on a mangé le soir. Si on mange lourd, eh bien, on ne va pas éliminer. Donc, on va stocker pendant la nuit. Et ensuite, le sommeil va s'en trouver perturbé. Et donc, si le sommeil est perturbé, mauvaise assimilation, etc., etc., c'est un cercle vicieux. Donc, en mangeant léger, on digère mieux, on dort mieux et on stocke moins.
Donc, finalement, ça concerne surtout les personnes qui ont du mal à dormir ?
Non, je pense que c'est tout le monde, sauf des personnes qui ont un estomac, toute épreuve et tout. Mais en principe, c'est bien, pour la plupart des gens, il est conseillé de ne pas manger tard le repas du soir, de prendre un repas léger.
Alors, quand vous dites de ne pas prendre le repas tard, ça veut dire que vers quelle heure est-ce que vous conseillez de le prendre ?
Alors c'est difficile avec la vie moderne. Dans l'absolu, ce serait 18h, mais bon, c'est très difficile de prendre un repas à 18h. Mais 19h, maximum 19h30, il faudrait pouvoir avoir pris son repas pour commencer bien à digérer avant d'aller se coucher.
Et quand on dit repas léger, vous allez nous donner un exemple de repas à suivre ?
Je vais vous donner un petit exemple. Hein, c'est une petite liste, après c'est à vous d'adapter, mais un petit exemple de repas quand même nourrissant, nutritif, parce que c'est vrai qu'en même temps, si on ne mange pas assez, des personnes plus que d'autres n'arriveront pas à dormir. Donc il est quand même pas très conseillé d'éviter le repas du soir, de le sauter, mais manger léger. Et avec les aliments que je vais vous donner, la liste, vous serez nourri. Et ce ne sera pas indigeste, et vous risquez quand même de bien dormir avec tout ça. Hein, je vais vous donner la liste. Alors, le premier, ce serait une salade composée avec croûtons à l'ail, olives noires, avocat, maïs, tomates, salade verte. Alors, disons que la mâche et la roquette vont bien dans cette salade-là. Un yaourt et un biscuit. Bien sûr, accompagné d'un morceau de pain ou d'une biscotte ou alors d'une galette de maïs ou de riz pour les personnes qui ont des problèmes de gluten. Voilà, le deuxième menu, ce serait une crudité quelconque, un potage au pois cassé qui s'accompagne aussi de pain de croûton et une crème dessert adaptée aux produits laitiers que l'on choisit de prendre, que l'on supporte. Troisième exemple, ce serait une salade verte avec de la feta, pommes de terre en robe des champs et une compote. Quatrième, salade de lentilles avec oignon blanc, un potage léger et un laitage de vache, de brebis, de chèvre ou de soja, sous la forme que vous désirez. Cinquième exemple, une salade verte avec graines germées, purée de patates douces à la tome de brebis et un fruit cuit.
Donc sur les menus que vous nous proposez, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il faudrait presque les reprendre un par un pour les détailler. Donc voilà à peu près le type de choses qu'il faudrait suivre pour bien se porter et avoir des bonnes nuits reposantes.
Oui, ben voilà, ce n'est peut-être pas tout pour avoir une bonne nuit reposante, mais disons que c'est déjà un élément, quelque chose à mettre vraiment de notre côté pour pouvoir mieux dormir. Et je pense que ce sont des menus, des repas qui sont assez équilibrés et en même temps digestes.
Et alors, il faut vraiment changer ses habitudes et arriver à ce style de vie, ou est-ce que c'est de temps en temps, quand on se sent un peu plus lourd?
Je pense que c'est bien de pouvoir prendre ce mode de vie. Il faut tenter les choses, il faut tenter. Si au bout de quelques temps que l'on mange léger le soir et équilibré, on se sent mieux, il faut continuer. Au départ, peut-être les personnes qui sont habituées à manger beaucoup le soir, peut-être qu'elles vont sentir un petit peu manque. Mais autrement, puis après, bon, les portions, il faut que les portions soient suffisantes. Puis après, il faut les mastiquer calmement, surtout pas devant les actualités. Surtout pas, parce que là, vous êtes sûr, avec toutes les bonnes nouvelles, de ne pas bien digérer. Et en principe, vous avez, si vous mâchez bien, vous les mangez calmement, vous avez votre bonne dose d'aliments. Il faut essayer, je pense, c'est tout, il faut tester.
Corinne Valls, merci beaucoup pour ces conseils. On vous retrouve pour une prochaine chronique de Top Cuisine. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
This is Adventist World Radio, the voice of hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale avventista.
La voce della speranza.
Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et évidemment accompagné de toute notre équipe. Juste avant, c'était Top Cuisine que vous retrouverez mercredi prochain sur cette même antenne. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, www.awr.org ou encore par votre téléphone, comme je vous le disais en début d'émission. Je vous propose maintenant de poursuivre avec le pasteur Daniel Monachini qui vient nous rejoindre pour un moment de réflexion avec Œil pour Œil.
Œil pour Œil, expression de la langue française tirée de la Bible, présentée par Oscar Miani et le pasteur Daniel Monachini.
Daniel Monachini, bienvenue à ce micro. Bonjour.
Bonjour Oscar.
Merci de nous rejoindre et de venir ici avec une nouvelle expression de notre langage courant. Et aujourd'hui, vous nous invitez à ne pas baisser les bras.
Exactement, exactement. À nouveau, comme on a eu l'occasion parfois de le dire, une expression voilà commune de tous les jours qui s'inscrit justement dans l'encouragement qu'on peut donner à un proche, à un ami, à un collègue, quand on le voit dans un moment un peu de mélancolie, un peu de blues, ou si on le voit reculer, qu'on peut partager aussi avec un jeune dans un moment d'études ou qui cherche du boulot. Ou, voilà, ne pas baisser les bras, c'est ne pas abandonner, ne pas résigner, ne pas se soumettre et continuer à chercher, parfois entre guillemets à combattre, alors non violemment, hein, mais à combattre les obstacles de l'existence et à trouver en soi et parfois dans les autres des ressources inattendues.
Et c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. D'ailleurs, ne pas baisser les bras quand on veut encourager quelqu'un, c'est une expression qui se veut encourageante, mais ça reste une parole.
Alors, ça reste effectivement une parole, et quand on aura l'occasion là de retourner dans l'origine de cette expression, hein, on verra que elle parle justement de collaboration, d'amitié.
Oui. Et d'où elle vient alors justement cette expression ? Elle remonte à loin ?
Alors, elle remonte à très loin, comme on l'a vu d'autres fois. C'est aussi une expression qui s'inscrit dans le langage biblique. Donc, elle vient de la Bible,
oui.
Particulièrement donc de l'Ancien Testament, de la Première Alliance. Et elle fait référence à un passage un peu délicat où, grosso modo, on a tous à l'esprit un peu cette sortie d'Égypte, c'est-à-dire le peuple d'Israël réduit en esclavage, qui sort d'Égypte et qui se rend vers la Terre Promise, et qui, au cours de son voyage dans le désert, est attaqué par une tribu appelée les Amalécites.
Oui.
Parce que, voilà, Israël, ce sont encore des esclaves, hein, pas confédérés, pas fédérés, il n'y a pas encore vraiment de sentiment de cohésion, de sentiment national, de constitution, ils sont très fragiles, et donc ils représentent une proie pour un certain groupe de tribus un peu nomades, un peu pillardes, qui pratiquent la guérilla dans la région de l'époque, et donc très facilement, ils peuvent à nouveau être transformés en un butin d'esclaves.
Et donc c'est ce peuple juif qui traverse le désert est mené par un homme, c'est Moïse.
Exactement, il est mené par Moïse, secondé par Josué, et là donc obligé de se défendre et donc de combattre pour leur indépendance, pour leur liberté même, hein, pour leur survie ici. On voit que donc Josué va conduire les hommes pour défendre un peu la grande caravane, hein, défendre les femmes, les enfants, et que Moïse montera sur un rocher pour être bien visible, puisque c'est lui le leader, c'est lui qui conduit le peuple, pour être bien visible de tous les hommes qui combattent, et il lèvera les bras vers le ciel pour invoquer la bénédiction de Dieu, la présence de Dieu, et donc d'où l'expression ne pas baisser les bras, parce que de fatigue, à un certain moment, ses bras baisseront,
oui.
Donc les combattants reculeront, les juifs reculeront, et là, deux hommes viennent à son secours, Aaron, son frère, et Hur, un collaborateur, pour soutenir ses bras.
Donc en fait, pendant tout le temps de la bataille, Moïse garde les bras
levés.
C'est ça.
Il garde les bras levés dans cette symbolique d'un appel au secours divin et de cette connexion qui est faite avec le ciel, quoi. Et pour chacun, ça sera le symbole de ce combat, de cette victoire, de cet appui qu'ils peuvent avoir, et en même temps de cette volonté de pas baisser les bras, c'est-à-dire pour eux de ne pas se rendre, de ne pas abandonner et de continuer la lutte.
Et on sait combien de temps il a levé les bras, Moïse ?
Alors en tout cas, la bataille a duré une partie de la journée, c'est pour ça qu'il a été soutenu, donc on calcule plusieurs heures, exactement combien c'est un peu complexe, mais en tout cas il a eu de la ténacité, de la persévérance, et puis surtout ce qui est très chouette dans ce que vous disiez justement Oscar, c'est que ces deux personnes qui viennent et qui le soutiennent, cette expression nous dit, voilà, on n'est pas juste des donneurs de leçons ou des conseillers qui secouent un proche, un ami, un collègue.
C'est pas juste une parole. Ils viennent lui tenir les bras, en fait.
Exactement. C'est un acte. Je soutiens l'autre, je prends de mon temps, j'offre de ma disponibilité, de mes ressources, de mon énergie, pour que l'autre ne soit pas seul face à son défi, à son combat.
Donc symboliquement, c'est très fort, finalement, comme expression, ne pas baisser les bras.
C'est un très beau geste de solidarité qui se réfère même à notre devise nationale, hein, c'est de la fraternité dans tous les sens du terme.
Là, vous ramenez ça à la fraternité ?
Ah oui. Je pense, hein, liberté, égalité, fraternité, c'est je soutiens l'autre, je suis un soutien.
Donc c'est une expression ancienne qui a encore tout son sens aujourd'hui.
Ah ben, je pense que dans la configuration de nos sociétés, peut-être plus que dans certaines périodes, elle représente justement cette solidarité, cet être ensemble et se porter ensemble ce défi, ce combat, un pays, mais en même temps simplement aussi une amitié et être peut-être en tant que collègue de boulot, pas dans la compétitivité, mais dans la bienveillance, dans la collaboration, dans l'humanité.
Eh bien, c'est un message fort qui ressort de cette expression « ne pas baisser les bras ». Merci beaucoup, Daniel Monachini.
Merci, Oscar.
Merci de votre venue ici régulière à ce micro.
C'est un plaisir.
C'est avec plaisir qu'on pourra se retrouver pour une nouvelle expression. À bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
C'était « œil pour œil », expression de la langue française tirée de la Bible, présenté par Oscar Miani et le pasteur Daniel Monachini.
Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche ? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain, alors à 4h30 pour ceux qui se lèvent tôt, ensuite à 8h et à 20h. Je vous souhaite une très bonne continuation à tous. Que Dieu vous bénisse. À demain.